Chapitre 19. Pourquoi me dire que vous voulez devenir bon ? S'écria Lord Henry, trempant ses doigts blancs dans un bol de cuivre rouge rempli d'eau de rosée. Vous êtes absolument parfait, ne changez pas de grâce. Dorian Gray hocha la tête. Non, Harry, j'ai fait trop de choses abominables dans ma vie. Je n'en veux plus faire. J'ai commencé hier mes bonnes actions. Où étiez-vous hier ? À la campagne, allez, je demeurais dans une petite auberge. Mon cher ami, dit Lord Henry en souriant, tout le monde peut être bon à la campagne, on n'y trouve point de tentation. C'est pourquoi les gens qui vivent hors de la ville sont absolument incivilisés. La civilisation n'est d'aucune manière une chose facile à atteindre. Il n'y a que deux façons d'y arriver, par la culture ou la corruption. Les gens de la campagne n'ont aucune occasion d'atteindre l'une ou l'autre, aussi stagnent-ils. La culture ou la corruption, répéta Dorian, je les ai un peu connus. Il me semble terrible maintenant que ces deux mots puissent se trouver réunis. Car j'ai un nouvel idéal, Harry. Je veux changer. Je pense que je le suis déjà. « Vous m'avez pas encore dit quelle était votre bonne action, ou bien me disiez-vous que vous en aviez fait plus d'une ?» demanda son compagnon, pendant qu'il versait dans son assiette une petite pyramide cramoisie de fraises aromatiques et qu'il l'anneigeait de sucre en poudre au moyen d'une cuillère tamisée en forme de coquille. « Oh, je puis vous la dire, Harry, c'est pas une histoire que je raconterai à tout le monde. » J'ai épargné une femme. Cela semble vain, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Elle était très belle et ressemblait étonnamment à Sibyl Vane. Je pense que c'est cela qui m'attira vers elle. Vous vous souvenez de Sibyl, n'est-ce pas ? Comme cela me semble loin. Hetty n'était pas de notre classe, naturellement. C'était une simple fille de village. Mais je l'aimais réellement. Je suis sûr que je l'aimais. Pendant ce merveilleux mois de mai que nous avons eu, j'avais pris l'habitude d'aller la voir deux ou trois fois par semaine. Hier, elle me rencontra dans un petit verger. Les fleurs du pommier lui couvraient les cheveux et elle riait. Nous devions partir ensemble ce matin à l'aube. Soudainement, je me décidai à la quitter, la laissant fleur comme je l'avais trouvée. J'aime à croire que la nouveauté de l'émotion doit vous avoir donné un frisson de vrai plaisir, Dorian, interrompit Lord Henry. Mais je puis finir pour vous votre idylle. Vous lui avez donné de bons conseils et brisé son cœur. C'était le commencement de votre réforme ? Harry, vous êtes méchant. Vous ne devriez pas dire ces choses absolument abominables. Le cœur d'Hetty n'est pas brisé. Elle pleura, cela s'entend, et ce fut tout. Mais elle n'est point déshonorée. Elle peut vivre comme Perdita dans son jardin où poussent la menthe et le souci. Et pleurer sur un Florizel sans foi, ajouta Lord Henry en riant et se renversant sur le dossier de sa chaise. Mon cher Dorian, vos manières sont curieusement enfantines. Pensez-vous que désormais cette jeune fille se contentera de quelqu'un de son rang ? Je suppose qu'elle se mariera quelque jour à un rude charretier ou à un paysan grossier. Le fait de vous avoir rencontré, de vous avoir aimé, lui fera détester son mari et elle sera malheureuse. Au point de vue moral, je ne puis dire que j'augure bien de votre grand renoncement. Pour un début, c'est pauvre. En outre, savez-vous si le corps d'Hetty ne flotte pas à présent dans quelque étang de moulin éclairé par les étoiles, entouré par des nénuphars comme Ophélie ? Je ne veux pas penser à cela, Harry. Vous vous moquez de tout, et de cette façon vous suggérez les tragédies les plus sérieuses. Je suis désolé de vous en avertir, mais je ne fais plus attention à ce que vous me dites. Je sais que j'ai bien fait d'agir ainsi. Pauvre Hetty, Comme je me rendais à cheval à la ferme ce matin, j'aperçus sa figure blanche à la fenêtre comme un bouquet de jasmin. Allez, ne parlons plus de cela. Et n'essayez pas de me persuader que la première bonne action que j'ai faite depuis des années, le premier petit sacrifice de moi-même que je ne connaisse, soit une sorte de péché. J'ai besoin d'être meilleur. Je deviens meilleur. Parlez-moi de vous. Que dit-on à la ville? Je n'ai pas été au club depuis plusieurs jours. Oh, on parle encore de la disparition de ce pauvre Basile. J'aurais cru qu'on finirait par s'en fatiguer, dit Dorian, se versant un peu de vin et fronçant légèrement les sourcils. Mon cher ami, on n'a parlé de cela que pendant 6 semaines, et le public anglais n'a pas la force de supporter plus d'un sujet de conversation tous les 3 mois. Il a été cependant assez bien partagé récemment. Il y a eu mon propre divorce et le suicide d'Alan Campbell. À présent, c'est la disparition mystérieuse d'un artiste. On croit à Scotland Yard que l'homme à l'Ulster gris qui quitta Londres pour Paris le 9 novembre par le train de minuit était ce pauvre Basile. Et la police française déclare que Basile n'est jamais venu à Paris. J'aime à penser que dans une quinzaine, nous apprendrons qu'on l'a vu à San Francisco. C'est une chose bizarre, mais on voit à San Francisco toutes les personnes qu'on croit disparues. Ce doit être une ville délicieuse. Elle possède toutes les attractions du monde futur. Mais que pensez-vous qu'il soit arrivé à Basile? Demanda Dorian, levant son verre de Bourgogne à la lumière et s'émerveillant lui-même du calme avec lequel il discutait ce sujet. Oh, n'en ai pas la moindre idée. Si Basile veut se cacher, ce n'est point là mon affaire. S'il est mort, je n'ai pas besoin d'y penser. La mort est la seule chose qui m'ait jamais terrifié. Je la hais. Et pourquoi? Dit paresseusement l'autre. Parce que, répondit Lord Henry en passant sous ses narines le treillis doré d'une boîte ouverte de vinaigrette, on survit à tout de nos jours excepté à cela. La mort et la vulgarité sont les deux seules choses au XIXe siècle que l'on ne peut expliquer. Allons prendre le café dans le salon, Dorian. Vous me jouerez du Chopin. Le gentleman avec qui ma femme est partie interprétait Chopin d'une manière exquise. Pauvre Victoria, je l'aimais beaucoup. La maison est un peu triste sans elle. La vie conjugale est simplement une habitude, une mauvaise habitude, mais on regrette même la perte de ces mauvaises habitudes. Peut-être est-ce celle-là que l'on regrette le plus. Elles sont une partie essentielle de la personnalité. Dorian ne dit rien, mais se levant de table, il passa dans la chambre voisine, s'assit au piano et laissa ses doigts errer sur les ivoires blancs et noirs des touches. Quand on apporta le café, il s'arrêta et, regardant Lord Henry, lui dit « Harry, ne vous est-il jamais venu à l'idée que Basile avait été tué, assassiné ?» Lord Henry eut un bâillement. « Basile était très connu et portait toujours une montre Waterbury. Pourquoi l'aurait-on assassiné ? Il n'était pas assez habile pour avoir des ennemis. Je ne parle pas de son merveilleux talent de peintre, mais un homme peut peindre comme Velasquez et être aussi terne que possible. Basile était réellement un peu lourdeau. Il m'intéressa une fois quand il me coiffa il y a des années la sauvage adoration qu'il avait pour vous et que vous étiez le motif dominant de son art. J'aimais beaucoup Basile, dit Dorian avec une intonation triste dans la voix. Mais ne dit-on pas qu'il a été assassiné?
Oui, quelques journaux. Oh, cela ne me semble guère probable. Je sais qu'il y a quelques vilains endroits dans Paris, mais Basile n'était pas homme à les fréquenter. Il n'était pas curieux. C'était son défaut principal. Que diriez-vous, Harry, si je vous disais que j'ai assassiné Basil? Dit Dorian en l'observant attentivement pendant qu'il parlait.
Je vous dirais, mon cher ami, que vous posez pour un caractère qui ne vous va pas. Tout crime est vulgaire, comme toute vulgarité est crime. Ça ne vous sierait pas de commettre un meurtre. Je suis désolé de blesser peut-être votre vanité en parlant ainsi, mais je vous assure que c'est vrai. Le crime appartient exclusivement aux classes inférieures. Je ne les blâme d'ailleurs nullement. J'imagine que le crime est pour elles ce que l'art est à nous, simplement une méthode de se procurer d'extraordinaires sensations.
Une méthode pour se procurer des sensations? Croyez-vous donc qu'un homme qui a commis un crime pourrait recommencer ce même crime? Ne me racontez pas cela.
Toute chose devient un plaisir quand on l'a fait trop souvent, dit en riant Lord Henry. C'est là un des plus importants secrets de l'existence. Je croirais cependant que le meurtre est toujours une faute. On ne doit jamais rien commettre dont on ne puisse causer après dîner.
Mais allez, nous ne parlons plus du pauvre Basil. Je voudrais croire qu'il a pu avoir une fin aussi romantique que celle que vous supposez, mais je ne puis. Il a dû tomber d'un omnibus dans la Seine et le conducteur n'en a point parlé.
Oui, telle a été probablement sa fin. Je le vois très bien sur le dos, gisant sous les eaux vertes avec de lourdes péniches passant sur lui et de longues herbes dans les cheveux. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il eût fait désormais une belle œuvre. Pendant les 10 dernières années, sa peinture s'en allait beaucoup.
Dorian poussa un soupir, et Lord Henry, traversant la chambre, alla chatouiller la tête d'un curieux perroquet de Java, un gros oiseau au plumage gris, à la crête et à la queue verte, qui se balançait sur un bambou. Comme ses doigts effilés le touchaient, il fit se mouvoir la dartre blanche de ses paupières clignotantes sur ses prunelles semblables à du verre noir, et commença à se dandiner en avant et en arrière.
Oui, continua Lord Henry, se tournant et sortant son mouchoir de sa poche, sa peinture s'en allait tout à fait. Il me semblait avoir perdu quelque chose. Il avait perdu un idéal. Quand vous et lui cessèrent d'être grands amis, il cessa d'être un grand artiste. Qu'est-ce qui vous sépara? Je crois qu'il vous ennuyait. Oh, si cela fut, il ne vous oublia jamais. C'est une habitude qu'ont tous les fâcheux. À propos, qu'est donc devenu cet admirable portrait qu'il avait peint d'après vous? Je crois ne point l'avoir revu depuis qu'il y mit la dernière main. Ah oui, je me souviens que vous m'avez dit, il y a des années, l'avoir envoyé à Selby et qu'il fut égaré ou volé en route. Vous ne l'avez jamais retrouvé? Quel malheur! C'était vraiment un chef-d'œuvre. Je me souviens que je voulais l'acheter. Je voudrais l'avoir acheté maintenant. Il appartenait à la meilleure époque de Basil. Depuis lors, ses œuvres montrèrent ce curieux mélange de mauvaise peinture et de bonnes intentions qui fait qu'un homme mérite d'être appelé un représentant de l'art anglais. N'avez-vous mis des annonces pour le retrouver? Vous auriez dû en mettre.
Je ne me souviens plus, dit Dorian. Je crois que oui, mais je ne l'ai jamais aimé. Je regrette d'avoir posé pour ce portrait. Le souvenir de tout cela m'est odieux. Il me remet toujours en mémoire ces vers d'une pièce connue, Hamlet, je crois. Voyons, que disent-ils? Like the painting of a sorrow, a face without a heart. Oh, oui, c'était tout à fait cela.
Lord Henry se mit à rire. Si un homme traite sa vie en artiste, son cerveau, c'est son cœur, répondit-il, s'enfonçant dans un fauteuil.
Dorian Gray secoua la tête et plaqua quelques accords sur le piano. Like the painting of a sorrow, répéta-t-il, « a face without a heart ». L'autre se renversa, le regardant les yeux à demi fermés. À propos, Dorian interrogea-t-il après une pause, quel profit y a-t-il pour un homme qui gagne le monde entier et perd, comment diable était-ce, sa pauvre âme, sa propre pauvre âme? Le piano sonnait faux. Dorian s'arrêta et regardant son ami. Pourquoi me demandez-vous cela, Harry? Mon cher ami, dit Lord Henry, levant ses sourcils d'un air surpris, je vous le demande parce que je suppose que vous pouvez me faire une réponse. Voilà tout. J'étais au parc dimanche dernier, et près de l'arche de marbre se trouvait un rassemblement de gens mal vêtus qui écoutaient quelques vulgaires prédicateurs de carrefour. Au moment où je passais, j'entendis cet homme proposant cette question à son auditoire. Elle me frappa comme étant assez dramatique. Londres est riche en incidents de ce genre. Un dimanche humide, un chrétien bizarre en Macintosh, un cercle de figures blanches et maladives sous un toit inégal de parapluie et ruisselant, une phrase merveilleuse, jetée au vent comme un cri par des lèvres hystériques, tout cela était une chose vraiment belle, dans son genre et tout à fait suggestive. Je songeais à dire au prophète que l'art avait une âme, mais que l'homme n'en avait pas. Je crains cependant qu'il ne m'eût point compris. Non, Harry, l'homme est une terrible réalité. On peut l'acheter, la vendre, en trafiquer. On peut l'empoisonner ou la rendre parfaite. Il y a une âme en chacun de nous, je le sais. Oh, en êtes-vous bien sûr, Dorian? Absolument sûr. Alors, là, ce doit être une illusion. Les choses dont on est absolument sûr ne sont jamais vraies. C'est la fatalité de la foi et la leçon du roman. Comme vous êtes grave, mais ne soyez pas aussi sérieux. Qu'avons-nous de commun, vous et moi, avec les superstitions de notre temps? Rien. Nous sommes débarrassés de notre croyance à l'âme. Allez, jouez-moi quelque chose, Dorian. Jouez-moi un nocturne. Et tout en jouant, dites-moi tout bas comment vous avez pu garder votre jeunesse. Vous devez avoir quelques secrets. Je n'ai que 10 ans de plus que vous et je suis même flétri, usé et jauni. Mais vous êtes vraiment merveilleux, Dorian. Vous n'avez jamais été plus charmant à voir que ce soir. Vous me rappelez le premier jour que je vous ai vu. Vous étiez un peu plus joufflu et timide, mais tout à fait extraordinaire. Vous avez changé, certes, mais pas en apparence. Je voudrais bien que vous me disiez votre secret. Pour retrouver ma jeunesse, je ferais tout au monde, excepté de prendre l'exercice, de me lever de bonne heure ou d'être respectable. Oh, jeunesse, rien ne te vaut. Quelle absurdité de parler de l'ignorance des jeunes gens. Les seuls hommes dont j'écoute les opinions avec respect sont ceux qui sont plus jeunes que moi. Ils me paraissent marcher devant moi. La vie leur a révélé ses dernières merveilles. Quant aux vieux, je les contredis toujours. Je le fais par principe. Si vous leur demandez leur opinion sur un événement d'hier, ils vous donnent gravement les opinions courantes en 1820, alors qu'on portait des bas longs et qu'on croyait à tout et qu'on ne savait absolument rien. Comme ce morceau que vous jouez là est délicieux. J'imagine que Chopin a dû l'écrire à Majorque, pendant que la mer gémissait autour de sa villa et que l'écume salée éclaboussait les vitres. C'est exquisement romantique. C'est une grâce, vraiment, qu'un art nous soit laissé qui n'est pas un art d'imitation. Ne vous arrêtez pas. J'ai besoin de musique ce soir. Il me semble que vous êtes le jeune Apollon et que je suis Martias, vous écoutant. J'ai mes propres chagrins, Dorian, et dont vous n'en avez jamais rien su. Le drame de la vieillesse n'est pas qu'on est vieux, mais bien qu'on fût jeune. Je suis étonné quelquefois de ma propre sincérité. Ah, Dorian, que vous êtes heureux! Quelle vie exquise que la vôtre! Vous avez goûté longuement de toutes choses, vous avez écrasé les raisins mûrs contre votre palais, rien ne vous a été caché, et tout cela vous fut comme le son d'une musique, vous n'en avez pas été atteint. Vous êtes toujours le même. Je ne suis pas le même, Harry. Si, vous êtes le même. Je me figure ce que sera le restant de vos jours. Ne le gâtez par aucun renoncement. Vous êtes à présent un être accompli. Ne vous rendez pas incomplet. Vous êtes actuellement sans défaut. N'hochez pas la tête, vous le savez bien. Cependant, ne vous faites pas illusion. La vie ne se gouverne pas par la volonté ou les intentions. C'est une question de nerfs, de fibres, de cellules lentement élaborées, où se cache la pensée et où les passions leurs rêves. Vous pouvez vous croire sauvé et fort, mais un ton de couleur entrevue dans la chambre, un ciel matinal, un certain parfum que vous avez aimé et qui vous apporte de subtiles ressouvenances, un vers d'un poème oublié qui vous revient en mémoire, une phrase musicale que vous ne jouez plus, c'est de tout cela, Dorian, je vous assure, que dépend votre existence. Browning l'a écrit quelque part, mais nos sens nous le font imaginer aisément. Il y a des moments où l'odeur du lilas blanc me pénètre et où je crois revivre le plus étrange moi de toute ma vie. Je voudrais pouvoir changer avec vous, Dorian. Le monde a hurlé contre nous deux, mais il vous a eu et vous aura toujours en adoration. Vous êtes le type que notre époque demande et qu'elle craint d'avoir trouvé. Je suis heureux que vous n'ayez jamais rien fait, ni modelé une statue, ni peint une toile, ni produit autre chose que vous-même. Votre art, ce fut votre vie. Vous vous êtes mis vous-même en musique. Vos jours sont vos sonnets. Dorian se leva du piano et passant la main dans sa chevelure. « Oui, murmura-t-il, la vie me fut exquise. Mais je ne veux plus vivre cette même vie, Harry. Et vous ne devriez pas me dire ces choses extravagantes. Vous ne me connaissez pas tout entier. Si vous saviez tout, je crois bien que vous vous éloigneriez de moi. Vous riez ou ne riez pas. Pourquoi vous arrêtez-vous de jouer, Dorian? Remettez-vous au piano et jouez-moi encore ce nocturne. Voyez cette large lune couleur de miel qui monte dans le ciel sombre. Elle attend que vous la charmiez. Si vous jouez, elle va se rapprocher de la terre. Vous ne voulez pas? Allons au club, alors. La soirée a été charmante, il faut bien la terminer. Il y a quelqu'un, White, qui désire infiniment faire votre connaissance, le jeune Lord Poole, l'aîné des fils de Bournemouth. Il copie déjà vos cravates et m'a demandé de vous être présenté. Il est tout à fait charmant et me fait presque songer à vous. J'espère que non, dit Dorian avec un regard triste, mais je me sens fatigué ce soir, Harry. Je n'irai pas au club. Il est près de 11 heures et je désire me coucher de bonne heure. Restez! Vous n'avez jamais été si bien joué que ce soir. Il y avait dans votre façon de jouer quelque chose de merveilleux. C'était d'un sentiment que je n'avais encore jamais entendu. C'est parce que je vais devenir bon, répondit-il en souriant. Je suis déjà un peu changé. « Vous ne pouvez changer avec moi, Dorian, dit Lord Henry. Nous serons toujours deux amis. »« Pourtant, vous m'avez un jour empoisonné avec un livre. Je n'oublierai pas cela. Harry, promettez-moi de ne plus jamais prêter ce livre à personne. Il est malfaisant. »« Oh, cher ami, vous commencez à faire de la morale. » Vous allez bientôt devenir comme les convertis et les revivalistes, prévenant tout le monde contre les péchés dont ils sont eux-mêmes fatigués. Vous êtes trop charmant pour faire cela. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Nous sommes ce que nous sommes et serons ce que nous pourrons. Quant à être empoisonné par un livre, on ne vit jamais rien de pareil. L'art n'a aucune influence sur les actions. Il annihile le désir d'agir, il est superbement stérile. Les livres que le monde appelle immoraux sont les livres qui lui montrent sa propre honte. Voilà tout. Mais nous ne discutons pas de littérature. Venez demain, je monte à cheval à 11 heures. Nous pourrons faire une promenade ensemble, et je vous mènerai ensuite déjeuner chez Lady Branksome. C'est une femme charmante. Elle désire vous consulter sur une tapisserie qu'elle voudrait acheter. Pensez-vous venir, ou bien déjeunerons-nous avec notre petite duchesse? Elle dit qu'elle ne vous voit plus. Peut-être êtes-vous fatigué de Gladys. Je le pensais. Sa manière d'esprit vous donne sur les nerfs. Dans tous les cas, soyez ici à 11 heures. Faut-il vraiment que je vienne, Harry? Certainement, le parc est adorable en ce moment. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de lilas depuis l'année où j'ai fait votre connaissance. Très bien, je serai ici à 11 heures, dit Dorian. Bonsoir, Harry. Arrivé à la porte, il hésita un moment, comme s'il eût eu encore quelque chose à dire, puis il soupira et sortit. Chapitre 20 et dernier. Il faisait une nuit délicieuse, si douce qu'il jeta son pardessus sur son bras et ne mit même pas son foulard autour de son cou. Comme il se dirigeait vers la maison, fumant sa cigarette, deux jeunes gens en tenue de soirée passèrent près de lui. Il entendit l'un d'eux souffler à l'autre « C'est Dorian Gray !» Il se remémora sa joie de jadis, alors que les gens se le désignaient, le regardaient ou se parlaient de lui. Il était fatigué maintenant d'entendre prononcer son nom. La moitié du charme qu'il trouvait au petit village où il avait été si souvent dernièrement venait justement de ce que personne ne l'y connaissait. Il avait dit souvent à la jeune fille dont il s'était fait aimer qu'il était pauvre et elle l'avait cru. Une fois, il lui avait dit qu'il était méchant. Elle s'était mise à rire et lui avait répondu que les méchants étaient toujours très vieux et très laids. Quel joli rire elle avait! On eût dit la chanson d'une grive. Comme elle était gracieuse dans ses robes de cotonnade et ses grands chapeaux. Elle ne savait rien de la vie, mais elle possédait tout ce que lui avait perdu. Quand il atteignit son habitation, il trouva son domestique qui l'attendait. Il l'envoya se coucher, se jeta sur le divan de la bibliothèque et commença à songer à quelques-unes des choses que Lord Henry lui avait dites. Était-ce vrai que l'on ne pouvait jamais changer? Il se sentit un ardent et sauvage désir pour la pureté sans tache de son adolescence rose et blanche, comme Lord Henry l'avait une fois appelée. Il se rendait compte qu'il avait terni son âme, corrompu son esprit, et qu'il s'était créé d'horribles remords, qu'il avait eu sur les autres une désastreuse influence, et qu'il y avait trouvé une mauvaise joie. Que de toutes les vies qui avaient traversé la sienne et qu'il avait souillées, la sienne était encore la plus belle et la plus remplie de promesses. Tout cela était-il irréparable? N'était-il plus pour lui d'espérance? Ah, quel effroyable moment d'orgueil et de passion, celui où il avait demandé que le portrait assumât le poids de ses jours et qu'il gardât, lui, la splendeur impolluée de l'éternelle jeunesse. Tout son malheur était dû à cela. N'est-il pas mieux valu que chaque péché de sa vie apportât avec lui sa rapide et sûre punition? Il y a une purification dans le châtiment. La prière de l'homme à un Dieu juste devrait être non pas Pardonnez-nous nos péchés, mais frappez-nous pour nos iniquités. » Le miroir curieusement travaillé que Lord Henry lui avait donné il y avait si longtemps reposait sur la table, et les amours d'ivoire riaient autour comme jadis. Il le prit, ainsi qu'il l'avait fait cette nuit d'horreur, alors qu'il avait pour la première fois surpris un changement dans le fatal portrait, et jeta ses regards chargés de pleurs sur l'ovale poli. Une fois, quelqu'un qu'il avait terriblement aimé lui avait écrit une lettre démentielle, finissant par ces mots idolâtres. « Le monde est chargé parce que vous êtes fait d'ivoire et d'or. Les courbes de vos lèvres écrivent à nouveau l'histoire. » Cette phrase lui revint en mémoire et il se la répéta plusieurs fois. Il prit soudain sa beauté en aversion, et jetant le miroir à terre, il en écrasa les éclats sous son talon. C'était sa beauté qu'il avait perdue, cette beauté et cette jeunesse pour lesquelles il avait tant prié, car sans ces deux choses, sa vie aurait pu ne pas être tachée. Sa beauté ne lui avait été qu'un masque, sa jeunesse qu'une raillerie. Qu'était la jeunesse, d'ailleurs ? Un instant vert et prématuré, un temps d'humeur futile, de pensées maladives. Pourquoi avait-il voulu porter sa livrée ? La jeunesse l'avait perdue. Il valait mieux ne pas songer au passé. Rien ne le pouvait changer. C'était à lui-même, à son propre futur, qu'il fallait songer. James Venn était couché dans une tombe sans nom au cimetière de Selby. Alan Campbell s'était tué une nuit dans son laboratoire sans révéler le secret qu'il avait forcé de connaître. L'émotion actuelle soulevée autour de la disparition de Basil Hallward s'apaiserait bientôt, elle diminuait déjà. Il était parfaitement sauf à présent. Ce n'était pas en vérité la mort de Basil Hallward qui l'oppressait, c'était la mort vivante de son âme. Basil avait peint le portrait qui avait gâté sa vie. Il ne pouvait pardonner cela, c'était le portrait qui avait tout fait. Basil lui avait dit des choses vraiment insupportables qu'il avait d'abord écoutées avec patience. Ce meurtre avait été la folie d'un moment, après tout. Quant à Alan Campbell, s'il s'était suicidé, c'est qu'il l'avait bien voulu. Il n'en était pas responsable. Une vie nouvelle. Voilà ce qu'il désirait, voilà ce qu'il attendait. Sûrement, elle avait déjà commencé. Il venait d'épargner un être innocent. Il ne tenterait jamais plus l'innocence. Il serait bon. Comme il pensait à Eddie Merton, il se demanda si le portrait de la chambre fermée n'avait pas changé. Sûrement, il ne pouvait être aussi épouvantable qu'il l'avait été. Peut-être, si sa vie se purifiait, en arriverait-il à chasser de sa face tout signe de passion mauvaise. Peut-être les signes du mal étaient-ils déjà partis, s'il allait s'en assurer. Il prit la lampe sur la table et monta. Comme il débarrerait la porte, un sourire de joie traversa sa figure étrangement jeune et s'attarda sur ses lèvres. Oui, il serait bon, et la chose hideuse qu'il cachait à tous les yeux ne lui serait plus un objet de terreur. Il lui sembla qu'il était déjà débarrassé de son fardeau. Il entra tranquillement, fermant la porte derrière lui, comme il avait accoutumé de le faire, et tira le rideau de pourpre qui cachait le portrait. Un cri d'horreur et d'indignation lui échappa. Il n'apercevait aucun changement, sinon qu'une lueur de ruse était dans les yeux et que la ride torve de l'hypocrisie s'était ajoutée à la bouche. La chose était encore plus abominable s'il était possible qu'avant. La tache écarlate qui couvrait la main paraissait plus écarlate, le sang nouvellement versé s'y voyait. Alors il trembla. Était-ce simplement la vanité qui avait provoqué son bon mouvement de tout à l'heure ou le désir d'une nouvelle sensation, comme lui avait suggéré Lord Henry avec un rire moqueur? Oui, ce besoin de jouer un rôle qui nous fait faire des choses plus belles que nous-mêmes. Ou peut-être tout ceci ensemble. Pourquoi la tache rouge était-elle plus large qu'autrefois? Elle semblait s'être élargie comme à la plaie d'une horrible maladie sur les doigts ridés. Il y avait du sang sur les pieds du portrait, comme si le sang avait dégoutté sur eux. Même il y avait du sang sur la main qui n'avait pas tenu le couteau. Confesser son crime? Savait-il ce que cela voulait dire, se confesser? C'était se livrer lui-même à la mort. Il se mit à rire. Cette idée était monstrueuse. D'ailleurs, s'il se confessait, qui le croirait? Il n'existait nulle trace de l'homme assassiné. Tout ce qui lui avait appartenu était détruit. Lui-même l'avait brûlé. Le monde dirait simplement qu'il devenait fou. On l'enfermerait s'il persistait dans son histoire. Cependant, son devoir était de se confesser, de souffrir la honte devant tous et de faire une expiation publique. Il y avait un Dieu qui forçait les hommes à dire leurs péchés sur cette terre, aussi bien que dans le ciel. Quoi qu'il fît, rien ne pourrait le purifier jusqu'à ce qu'il eût avoué son crime. Son crime! Il haussa les épaules. La vie de Basil Hallward lui importait peu. Il pensait à Hetty Merton. Car c'était un miroir injuste, ce miroir de son âme qu'il contemplait. Vanité, curiosité, hypocrisie, n'y avait-il rien eu d'autre dans son renoncement? Il y avait eu quelque chose de plus, il le pensait au moins. Mais qui pouvait le dire? Bon, non, il n'y avait rien de plus. Par vanité, il l'avait épargné, par hypocrisie, il avait porté le masque de la bonté, et par curiosité, il avait essayé du renoncement. Il le reconnaissait parfaitement. Mais ce meurtre, le poursuivrait-il toute sa vie? Serait-il toujours écrasé par son passé? Devait-il se confesser? Jamais! Il n'y avait qu'une preuve à relever contre lui. Cette preuve, c'était le portrait. Il le détruirait. Pourquoi l'avait-il gardé tant d'années? Il s'était donné le plaisir de surveiller son changement et sa vieillesse. Depuis bien longtemps, il n'avait ressenti ce plaisir. Il le tenait éveillé la nuit. Quand il partait de chez lui, il était rempli de la terreur que d'autres yeux que les siens puissent le voir. Il avait apporté une tristesse mélancolique sur ses passions. Sa simple souvenance lui avait gâté bien des moments de joie. Il lui avait été comme une conscience. Oui, il avait été la conscience. Il le détruirait. Il regarda autour de lui et aperçut le poignard avec lequel il avait frappé Basil Hallward. Il l'avait nettoyé bien des fois jusqu'à ce qu'il ne fût plus taché. Il brillait. Comme il avait tué le peintre, il tuerait l'œuvre du peintre et tout ce qu'elle signifiait. Il tuerait le monstrueux portrait de son âme, et privé de ces hideux avertissements, il recouvrerait la paix. Il saisit le couteau et en frappa le tableau. Il eut un grand cri et une chute. Ce cri d'agonie fut si horrible que les domestiques effarés s'éveillèrent en sursaut et sortirent de leur chambre. Deux gentlemen qui passaient en dessous dans le square s'arrêtèrent et regardèrent la grande maison. Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eussent rencontré un policeman et le ramenèrent avec eux. L'homme sonna plusieurs fois, mais on ne répondit pas. excepté une lumière à une fenêtre des étages supérieurs, la maison était sombre. Au bout d'un instant, il s'en alla, se posta à côté sous une porte cochère et attendit. « À qui est cette maison, constable ?» demanda le plus âgé des deux gentlemen. « À monsieur Dorian Gray, monsieur, » répondit le policeman. Et s'en allant, ils se regardèrent l'un l'autre et ricanèrent. L'un d'eux était l'oncle de Sir Hattie Rushton. Dans les communs de la maison, les domestiques à moitié habillés se parlaient à voix basse. La vieille Mistress Leaf sanglotait en se tordant les mains. Francis était pâle comme un mort. Au bout d'un quart d'heure, il monta dans la chambre avec le cocher et un des laquais. Ils frappèrent sans qu'on leur répondît. Ils appelèrent. Tout était silencieux. Enfin, après avoir essayé vainement de forcer la porte, ils grimpèrent sur le toit et descendirent par le balcon. Les fenêtres scellèrent aisément, leur ferrure était vieille. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent pendu au mur un splendide portrait de leur maître, tel qu'ils l'avaient toujours connu, dans toute la splendeur de son exquise jeunesse et de sa beauté. Gisant sur le plancher, était un homme mort en habit de soirée, un poignard au cœur. Son visage était flétri, ridé, repoussant. Ce ne fut qu'à ses bagues qu'ils purent reconnaître qui il était.